19h22, merci d'être à l'écoute d'Europe 1 avec notre dossier sur la jeunesse au cœur des discours et des actions politiques, ne serait-ce que momentanées. C'est une récurrence en tout cas. Les jeunes, les 18-34 ans si on précise, redeviennent le temps des campagnes une priorité pour les candidats. Avec nous ce soir, l'éditorialiste et chef du service politique d'Europe 1, Mickaël Darmon, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Louis Boyard, porte-parole du mouvement des solidarités étudiantes, étudiants en droit, bonsoir Louis. Et Paul Maillot, président de la FAGE, Fédération des associations générales étudiantes, bonsoir à vous. N'hésitez pas à nous donner beaucoup de concrets justement sur ce que vous souhaitez que les politiques vous apportent et sur la vie que nous traversons aujourd'hui, la détresse des étudiants vous êtes, et des jeunes, vous êtes bien placés pour la connaître. Un petit point pour commencer, Mickaël Darmon, sur la surenchère à laquelle nous assistons ces derniers jours, cette compétition de propositions, j'en citais quelques-unes, le RSA jeune, la garantie universelle que nous a rappelé hier soir dans ce studio Elisabeth Borne. On est dans cette dynamique, clairement, là, en vue de 2022.
Oui, parce que c'est le temps du déconfinement. Et la crainte, effectivement, de l'exécutif, l'objectif des politiques, c'est de voir dans quelle mesure ce déconfinement ne sera pas aussi celui de la colère. Mmh. Celui de la colère, en particulier, d'une jeune génération qui se sent totalement sacrifiée par la période de la pandémie, dont on a beaucoup parlé, la détresse psychologique, la détresse matérielle. Une détresse d'ailleurs que l'exécutif a mis du temps à identifier et à pouvoir également traiter, comme on dit, de manière importante, en la mettant au sommet de son agenda. Et bien évidemment, ces jeunes qui ont beaucoup de difficultés, qui ont été très touchés par la pandémie, comme on l'a vu, sont aussi des électeurs. On arrive donc effectivement pour la préparation de la campagne présidentielle et il y a un besoin absolu de pouvoir donc les récupérer et faire en sorte que la radicalité qu'ils puissent aussi exprimer ne se retourne pas contre l'exécutif. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron travaille régulièrement du côté des jeunes. On a vu la grande interview à Brut et puis ensuite toutes les propositions. C'est aussi le cas pour Marine Le Pen qui a lu attentivement les derniers sondages. La tranche 18-24 ans est totalement désinhibée à son égard et considère qu'elle peut être aussi, au fond, une personnalité qu'ils peuvent élire. Donc on voit bien que c'est aujourd'hui cet enjeu, c'est la jeunesse. On le sait, c'est comme vous l'avez dit, tout le temps le cas dans préparation de campagne électorale. Mais cette fois-ci, il y a la pandémie qui donne un carburant supplémentaire, je dirais, à ce pouvoir jeune.
Merci pour cet éclairage, Mickaël Darmon. Un tiers des 25-34 ans envisagerait de voter Rassemblement National en 2022. Ces chiffres, vous les avez aussi pour la FAGE, Paul Maillot, d'où ce meeting virtuel et ces actions, ces idées, ces promesses lancées par Marine Le Pen.
Alors, on a de plus en plus un renforcement de... Oui, la politique, je pense, c'est de la conscientisation de ce qui peut se passer au niveau des... différentes instances. On a des échéances qui arrivent, les départementales, les régionales, et en plus, on se trouve à l'aube de 2022. Mmh. Et c'est pour ça que, oui, effectivement, on peut se retrouver avec une série de mesures à destination des jeunes, peut-être pour prévenir un petit peu, comme ce que vous avez pu dire, un renforcement des idées qui iraient davantage vers une droite forte.
Vous n'êtes dupe de rien. Évidemment, ces promesses tombent à un moment particulier où ces jeunes sont captifs, sont dans une forme de détresse. Alors, il y a notamment cette possibilité qui a vous fait réagir peut-être, Louis Boyard. Elle s'adresse aux jeunes de moins de 30 ans qui auraient envie d'entreprendre avec ce soutien, cette exonération d'impôts, cette dotation. Là, on est dans l'action, dans le concret. Il y a cette surenchère aussi dans l'action, dans le concret. Avec la garantie universelle du gouvernement.
C'est normal, on est en campagne, il va y avoir plein de promesses. De toute façon, ces promesses, ils peuvent les faire. Dans la plupart des régions, ils n'auront pas la majorité, donc ils n'auront pas à prouver ça en acte. Par contre, pour parler du rapport entre la jeunesse et le Rassemblement national, il y a un mot qui a été utilisé tout à l'heure, ça a été le mot « la jeunesse est en colère ». Moi, je ne pense pas que la jeunesse soit en colère, parce que si elle était en colère, elle serait déjà dans la rue faire la révolte. Les jeunes ne sont pas en colère, ils sont juste dégoûtés. Ils n'en peuvent plus. Et d'ailleurs, il y a un chiffre, il me semble que c'est celui-là, c'est 42% des jeunes qui, avant même cette élection, envisageraient de ne pas aller voter. Et dans beaucoup de... Quand je discute, moi, avec des jeunes de mon âge, en me disant « qu'est-ce que tu vas voter ?» et qu'ils me disent « Front National », je leur demande « pourquoi ?» Ils me disent « mais c'est pas parce que j'adhère avec les idées anti-immigration, le nationalisme à outrance, c'est juste parce que j'ai envie de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. » Le Pen, ce n'est pas un vote d'adhésion pour
les
jeunes.
Ce n'est pas de la colère pour vous, c'est de la résignation.
Tout ce qu'ils demandent, c'est juste de bousculer les choses parce que ce sont des personnes qui ne se sentent jamais représentées, qui n'ont jamais l'impression qu'on les comprend. Et c'est normal. Le décalage générationnel, c'est un véritable frein pour comprendre politiquement la jeunesse. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est senti au gouvernement et c'est ce qui s'entend sur tous les candidats. Pour moi, aucune de leurs propositions ne sont à la hauteur de ce que vivent réellement les jeunes aujourd'hui.
Alors quand Emmanuel Macron dit « c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 », là, il fait corps probablement avec ce qu'hélas ces jeunes de 20 ans traversent. Qu'avez-vous pensé à l'AFAJ et avec toutes les fédérations que vous représentez, Paul Maillot, de cette plateforme « Un jeune, une solution » Il y a eu quand même 1 500 000 jeunes en CDD de plus de 3 mois, un record en termes d'apprentissage. Il y a eu du concret à mettre à l'actif du gouvernement sur ce soutien aux jeunes et aux étudiants.
Sur la question du plan Un jeune, une solution, effectivement, on a pu avoir une plateforme qui est en train de se développer et qui un petit peu va dans l'esprit de ce qu'on aimerait bien voir arriver avec l'AFAJ, un guichet unique qui regroupe l'ensemble des aides.
D'accord.
En revanche, il faut aller quand même plus loin. On a eu beaucoup trop de difficultés qui sont intervenues avec la crise sanitaire, qui ont été exacerbées, qui étaient déjà préexistantes, que ce soit au niveau académique, au niveau social. Je vais pas revenir sur toutes les images qui ont pu être diffusées cette dernière année. Il y a eu énormément de difficultés qui ont été vécues par les jeunes. On l'a vu sur les distributions alimentaires, on l'a vu quand on a eu la possibilité de pouvoir revenir en présentiel au niveau de la santé mentale. Ça vient corroborer un petit peu le tout.
Oui.
C'est alimenté par ces différents postes que je viens de citer. Et c'est assez inquiétant quand on voit les chiffres aussi. On a 23% des jeunes qui ont déjà eu des pensées suicidaires. Donc on arrive à un stade où effectivement on a des choses qui peuvent être concrètes parfois. Et c'est le cas de la plateforme Un jeune, une solution qui tend à se développer et qui tend à devenir un vrai guichet unique d'accès aux aides. En revanche... là, on arrive à un stade où ça ne va pas être suffisant
bien
notamment
sûr.
Pour les étudiantes et les étudiants.
Oh oui, vous qui travaillez main dans la main sur le terrain avec ces associations d'aide alimentaire dont les jeunes ont beaucoup bénéficié et bénéficient encore au cœur de cette pandémie. C'est ce qui vous met en colère, pour reprendre cette expression quand même, Louis Boyard, lorsque vous vous retrouvez face à la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Haïry, qui est pleine de bonne volonté, mais dont le discours pour vous sonne creux face à cette réalité criante, justement.
Sincèrement, je ne crois pas à leur bonne volonté. Je pense vraiment que ce sont des politiques qui ont été lâches. C'est un terme qui est très très fort,
lâche.
Mais je vais vous expliquer pourquoi.
Oui.
Le montant des bourses en France, c'est à peu près 2 milliards. Voilà. On met 2 milliards pour pouvoir aider financièrement les étudiants. Peut-être la FAJ pourra me corriger si je me trompe. 2 milliards à l'égard de tout ce qu'on a dépensé pendant cette crise, ce n'était pas grand-chose.
Mmh.
Et ils auraient pu tout simplement augmenter les bourses ou dire, bon bah, puisque beaucoup d'étudiants ont perdu leur emploi, on va leur donner une compensation, mais ça n'a pas été fait. Et en fait, j'ai le sentiment que l'exécutif n'a pas voulu véritablement beaucoup investir dans le milieu étudiant, parce que si jamais ils nous donnaient des droits, des acquis, ils allaient être obligés de nous les retirer plus tard, parce que politiquement, ils ne sont pas d'accord avec ça. Et donc du coup, ils ont, pour moi, abandonné les étudiants, parce qu'ils n'avaient pas envie de le mettre le doigt dans un engrenage qui est des jeunes qui voudraient garder des acquis. Et donc, je ne pense pas qu'ils soient de bonne volonté, je pense que... cette gestion de la crise, ça a été beaucoup de communication. On a beaucoup parlé des repas crous à 1 euro, mais à mes yeux, ce n'est pas une fierté d'avoir des queues de 40 minutes pour aller chercher des repas à 1 euro.
Ouais.
Et en vérité, c'est une toute petite économie dans le budget des étudiants. Donc moi, je ne crois sincèrement pas à leur bonne volonté et je ne crois même pas qu'ils sont méchants. Ils sont juste complètement paumés. Ils ne savent pas c'est quoi la jeunesse.
Vous êtes senti abandonné aussi pour le compte de tous les étudiants que vous représentez à la FAJ, Paul Maillot ?
Quand je citais le niveau social, où c'est effectivement un des postes qui a été le plus médiatisé, on se retrouve avec... une dégradation des ressources des jeunes pour les raisons qu'on connaît, les secteurs qui ont été le plus impactés par la crise sanitaire. C'est une raison. L'autre raison, c'est effectivement l'inéquation entre les mesures qui ont pu être prises par le gouvernement et les besoins réels des jeunes. La question du taux de non-recours revient beaucoup, mais il y a aussi, ça vient d'être cité, quel intérêt de pouvoir avoir une extension des tickets RU à 1 euro lorsqu'on a énormément de points de restauration qui sont encore fermés. Ça tend à la réouverture, mais on a soit des mesures qui ne sont peu lisibles, ou alors qui arrivent tardivement. Et effectivement, ça, encore une fois, alimente tout ce qui va être dégradation de la santé mentale et ambiance un petit peu celle qu'on connaît encore
bien
aujourd'hui.
Sûr, bien sûr. Alors voilà pourquoi on vous propose, du côté de LFI par exemple, ce RSA jeune, qui n'est pas une solution mais qui est un pansement. Voilà pourquoi on met en avant de nouveau le service national universel qui est censé expérimenter les principes et les valeurs de la République. Tout ça, c'est de l'esbrouf aussi pour vous, Louis Boyard ?
Pour moi, quand j'ai vu le débat avec la secrétaire d'État à la jeunesse, ce que je lui avais dit, elle est en train de travailler sur une réforme qui va coûter 1,5 milliard d'euros pour que des jeunes de 16-18 ans aillent chanter sous le drapeau à 6h30 du matin, alors qu'à côté, on a des étudiants qui ne mangent pas le soir. Les priorités budgétaires de ce gouvernement posent question quand on est jeune. Et quand je vous disais qu'on n'était pas en colère, mais qu'on était dégoûté, c'est ce genre d'incohérence qui nous dégoûte.
Et là où vous vous retrouvez complètement, j'imagine, pour la FAJ et pour le mouvement de solidarité étudiante.
C'est là où on a une prise de conscience qui est en train d'arriver, je pense, pour des raisons, et peu importe lesquelles au final, mais c'est... des jeunes qui ont été longtemps laissés de côté, ou en tout cas qui n'ont pas fait l'objet de mesures ou de prises de décisions fortes de la part du gouvernement. Et pour reprendre une citation, une jeunesse, un pays qui ne prépare pas sa jeunesse à construire son avenir est un pays qui se meurt. Je pense qu'il faut effectivement pouvoir méditer davantage là-dessus et agir vite et fort, parce qu'on arrive à un stade presque critique.
Et grande vigilance sur la priorité budgétaire de ce gouvernement, vous le disiez l'un et l'autre, à destination d'une jeunesse qui souffre et qui parfois ne mange pas à sa faim. Louis Boyard, porte-parole du mouvement des solidarités étudiantes, et Paul Moyau, président de la FAJ, Fédération des associations générales étudiantes. Merci pour votre passage ce soir sur Europe 1. À bientôt.